Chapitre 15. La nuit, les détails disparaissant dans l'obscurité, Ratten discernait presque la grandeur d'Elantris. Silhouettées sur le ciel étoilé, les ruines dégagées de leur linceul de désespoir devenaient les souvenirs d'une cité bâtie avec talent et avec soin, dont chaque pierre constituait une œuvre d'art, dont les tours effleuraient le ciel, doigts chatouillant les astres, et dont les dômes s'étendaient tels de vénérables collines. Le tout n'avait jamais été qu'une illusion. Sous la grandeur résidaient les décombres, autant des plaies suppurantes mises au jour désormais. Qu'il était facile de négliger des hérésies rehaussées de dorures, qu'il était simple d'imaginer que la force extérieure traduisait la justesse intérieure. « Continue de rêver, Elantris, » murmura le Gurn. Il reprit sa marche sur le rempart qui cerclait la cité. « Rappelle-toi ce que tu étais. Tâche de dissimuler tes péchés sous le couvert de la nuit. Demain, le soleil se lèvera et la vérité réapparaîtra. « Monseigneur, vous disiez ?» Ratten se retourna. Il avait à peine remarqué le garde qui l'avait croisé sur le chemin de ronde, sa lourde pique juchée sur son épaule et sa torche crachotante presque éteinte. « Rien, je parlais tout seul. » L'autre acquiesça et repartit. Les soldats s'habituaient au Gurn qui venait contempler Elantris tous les soirs depuis une semaine et qui arpentait le chemin de ronde, perdu dans ses pensées. Même s'il y avait cette fois un motif supplémentaire à sa présence, le plus souvent il ne venait là que pour se retrouver seul et pour réfléchir. Ce qui l'attirait vers la cité, il l'ignorait. Sans doute la curiosité, pour une bonne part. Il ne l'avait jamais contemplé du temps de sa splendeur et il se demandait comment quoi que ce soit, même une ville aussi grandiose, avait pu résister à la puissance du Fjorden, d'abord sur le plan militaire puis sur le plan théologique. Il ressentait aussi une responsabilité envers les gens, si l'on pouvait leur donner ce nom, vivant à Elantris. Il les utilisait comme bouc émissaire afin d'unir ses fidèles, et il se sentait coupable. Les Elantriens n'étaient pas des démons, rien que de pauvres hères affectés par une terrible maladie. Ils méritaient la pitié et non l'opprobre. Ils deviendraient ses démons. Pourtant, puisque c'était comme il le savait bien, la façon la plus simple et la plus inoffensive d'unifier la Rhaelon. S'il retournait son peuple contre le gouvernement, comme au Duladel, il y aurait des morts. La solution qu'il avait choisie ici entraînerait aussi des effusions de sang, mais il l'espérait, en moins grande quantité. « Oh, quel fardeau on doit accepter au service de votre empire, Seigneur Jadette !» Peu lui importait d'avoir agi au nom de l'Église ou sauvé des milliers d'âmes. La destruction qu'il avait causée en Duladel lui broyait le cœur. Des gens qui lui avaient accordé leur confiance étaient morts et une société entière avait plongé dans le chaos. Jadette exigeait des sacrifices. Que pesait la conscience d'un seul face à la gloire de son règne? Que pesait un accès de culpabilité face à une nation désormais unifiée sous l'œil attentif de Jadette? Ratten en garderait les cicatrices, mais mieux valait voir un homme souffrir qu'une nation s'obstiner dans l'hérésie. Il porta son regard sur les lumières scintillantes de Caë. Jadette lui avait offert une nouvelle occasion. Cette fois, il choisirait un autre mode d'action. Ni révolte dangereuse, ni bain de sang causé par le combat de deux classes. Ratten ferait pression avec prudence, jusqu'à renverser Yadon et le remplacer par un autre dirigeant, plus malléable. La noblesse d'Arelon ne tarderait guère à se convertir ensuite. Les seuls à souffrir seraient ses boucs émissaires, les Elantriens. Il tenait là un excellent plan. Il se voyait balayer sans trop d'effort la monarchie déjà affaiblie et fragilisée. Les Arellois subissaient une telle oppression qu'ils pourraient vite instituer le nouveau gouvernement avant même qu'on apprenne la chute de Yadon. Pas de révolution. Une transition sans drame. À moins qu'il ne commette une erreur, dans les fermes et les localités alentour qu'il avait visitées, les gens étaient si tendus qu'ils ne pouvaient plier. S'il les laissait faire, ils se soulèveraient pour massacrer leurs supérieurs, une possibilité d'autant plus inquiétante qu'ils se savaient capables de la mettre à profit. le Gurn en lui chevaucherait la vague de destruction tel un fier coursier pour convertir le pays entier en bastion d'hérétie. Il soupira et reprit sa marche. Par ici, la garde nettoyait le chemin de ronde, mais une section enduite d'une crasse noire huileuse s'étendait plus avant. Il ignorait d'où elle provenait au juste, mais elle paraissait recouvrir tout le mur à l'écart du portail central. Avant de l'atteindre, il avisa un groupe d'hommes vêtus de capes, malgré la température nocturne plutôt clémente. Il se figurait peut-être passer inaperçu, ainsi attifé, mais dans ce cas, Telri aurait dû choisir autre chose qu'une luxueuse pèlerine couleur lavande brodée d'argent. Raten secoua la tête, chagriné par cet étalage. Les alliés qu'il faut pour accomplir le dessein de Jadette. Le duc négligea d'abaisser sa capuche et de s'incliner à l'approche du Gurn, lequel d'ailleurs ne s'attendait ni à l'un ni à l'autre. L'aristocrate adressa néanmoins un signe à ses gardes qui s'éloignèrent pour les laisser discuter en privé. Une fois à ses côtés, Raten s'accouda au parapet afin de contempler Kaé et sa constellation. La plupart des habitants de la localité étaient si riches que lampes à huile et bougies y abondaient. Le Gurn avait eu l'heure de visiter des grandes villes où régnait une nuit aussi absolue qu'à Elantris. « Vous ne voulez pas savoir pourquoi je tenais à vous voir ?» demanda Telri. « Vous avez des doutes sur notre plan. » Le duc haussa les sourcils, surpris d'être aussi transparent. « Ma foi, oui. Si vous le savez déjà, vous avez peut-être des doutes, vous aussi. Pas du tout. Ce qui m'éclaire, c'est votre comportement, la discrétion dont vous avez tenu à entourer cette rencontre. » Telri fronça les sourcils. L'homme était habitué à dominer la moindre discussion. Était-ce pour ce motif qu'il hésitait? Raten l'avait-il offensé? Non. À en juger par son regard, ce n'était pas ça. Au début, l'autre était avide de conclure un marché avec le Fjorden et il avait organisé avec grand plaisir la fête de ce soir. Qu'est-ce qui avait changé? Je ne peux pas me permettre de laisser passer l'occasion, songea le Gurn. Si seulement il avait disposé de davantage de temps. Il lui restait moins de 80 jours des 3 mois impartis. Un an lui aurait permis d'œuvrer avec plus de précision et de subtilité. Il n'avait pas ce luxe, et sa meilleure chance d'obtenir un changement de gouvernement sans chaos restait d'utiliser Telri. Pourquoi ne pas me dire ce qui vous tracasse? Reprit-il. Ma foi, je ne suis pas certain de vouloir travailler avec le Fjorden. Raten haussa un sourcil. Voilà qui est nouveau. Le duc le dévisagea dessous sa capuche. Dans le clair de lune, sa tache de naissance semblait une simple excroissance des ombres avoisinantes et elle donnait à ses traits un aspect menaçant. Ou du moins l'aurait-elle fait si l'extravagance de sa mise n'avait caché l'effet. Puis l'autre fronça les sourcils. « J'ai entendu des rumeurs fascinantes à la fête, Gurn. C'est bien vous qu'on a nommé Anduladel avant sa chute ?»« Ah, nous y voilà. J'étais là-bas, en effet. À présent, vous êtes ici. » Vous vous demandez pourquoi un noble peut ressentir un certain malaise à ce propos? Tous les républicains, soit tous les dirigeants du Duladel, ont été massacrés durant la Révolution. Et mes sources affirment que vous avez joué un rôle primordial dans son déclenchement. Il n'était peut-être pas aussi stupide que Raten l'avait cru, et son inquiétude était pertinente. Le Gurn allait devoir lui répondre avec précaution. D'un hochement de tête, il indiqua les gardes du duc qui se tenaient non loin de là. « Messire, où avez-vous trouvé ces soldats? Quel rapport? Faites-moi plaisir. » Telri se retourna pour considérer les soldats. « Je les ai débauchés de la garde d'Elantris, ils me servent de garde du corps. » Raten hocha la tête. « Combien en employez-vous? 15? Comment évalueriez-vous leurs compétences? » Le duc haussa les épaules. « Passable, j'imagine, je ne les ai jamais vus combattre. C'est qu'ils n'ont jamais combattu. » Aucun soldat arélois vivant n'a mis le pied sur un champ de bataille. « Où voulez-vous en venir, Gurn ?» lança l'autre d'un ton irrité. Raten se détourna pour désigner la casemate au bas du rempart, éclairée par des torches. « La garde d'Elantris doit compter, disons, 500 hommes. 700. Avec les forces de police locales et les milices privées comme la vôtre, il y a peut-être 1000 soldats dans Toukaé. Ajoutez-y encore la légion de Messire Eondel, et on obtient un total de moins de 1500 soldats professionnels dans les environs. Et ? Il se retourna vers Telri. Vous croyez vraiment que le Virne a besoin d'une révolution pour s'emparer de l'Arelon ? Le Virne n'a pas d'armée. Le Fjorden ne possède qu'un contingent voué au maintien de l'ordre. Je ne parle pas du Fjorden, mais du Virn, régent de la création, chef du Sudéret. Duc, soyons francs, combien de soldats y a-t-il au Revel, au Jador, au Svorden, dans les autres pays de l'Est? Tous se déclarent d'hérétis. Un ordre du Virn suffirait à lever une armée, ne croyez-vous pas? Tellery parut songeur. Ratten opina en voyant une lueur de compréhension dans le regard de son compagnon. Pourtant, il ignorait le principal. Le Virn n'avait même pas besoin d'une armée d'étrangers pour envahir ce pays. Hors des hautes instances de l'Église, rares étaient ceux qui connaissaient la deuxième force la plus puissante dont il disposait, ses monastères. Depuis des siècles, les prêtres d'hérétis formaient leurs moines à la guerre, à l'assassinat et à d'autres activités. Les défenses aréloises étaient si médiocres que le personnel d'un seul monastère aurait sans doute suffi à le conquérir. Le Gurn frissonna à l'idée que les moines entraînés au monastère de Dakor puissent un jour pénétrer en Arelon. Il baissa les yeux vers son bras qui, sous l'armure de plaque, portait les marques de son séjour là-bas. Mais c'était là des sujets qu'il ne pouvait aborder avec Tellery. Messire, je me trouve chez vous parce que le Virn veut laisser aux Arélois la possibilité d'embrasser sans violence la foi d'Héréti. S'il voulait écraser leur pays, il le pourrait. Or, il m'a envoyé, moi. Mon seul but est de convertir ce peuple. Tellery buvait ses paroles. Pour ce faire, poursuivit Ratten, je dois veiller à ce que son gouvernement se déclare favorable à la cause d'Héréti, ce qui exigera de nouveaux dirigeants et un nouveau roi. J'ai donc votre parole? Ce sera vous qui monterez sur le trône. Le duc hocha la tête. C'était à l'évidence la réponse qu'il attendait. Jusqu'alors, le Gurn s'était contenté de promesses très générales, mais il ne pouvait plus se permettre de rester dans le vague. Il donnait ainsi la preuve, par la parole, qu'il essayait de saper l'autorité royale, un risque calculé, et il excellait à de tels calculs. Il y en aura pour s'opposer à vous, le prévint Tellery. Qui donc? Cette femme, sa reine, son idiotie supposée n'est qu'un masque. Mes informateurs me disent qu'elle s'intéresse de beaucoup trop près à vos activités et elle posait toutes sortes de questions sur vous ce soir durant ma réception. Le discernement du duc surprit Ratten. L'autre semblait prétentieux, flagorneur, mais il venait de prouver qu'il n'était pas dénué de compétences. Ce pouvait être un atout ou non. Peu importe la fille. Prenez l'argent que nous vous avons fourni et attendez. Votre heure viendra. Bientôt. Vous savez la nouvelle que le roi a reçue ce soir?
Oui.
Tout se déroule selon nos plans. Soyons patients.
Bon.
Tellery nourrissait encore quelques réserves, mais la logique du Gurn et sa promesse du trône avaient porté. Il salua son interlocuteur avec un respect inhabituel, puis il héla ses gardes du geste et se détourna prêt à partir. Monsieur le duc! Une idée était venue à Ratten. L'autre s'immobilisa et regarda en arrière. « Vos soldats ont toujours des amis dans la garde ?» Tellery haussa les épaules.
« Sans doute. »«
Doublez leur salaire, » dit le Gurn trop bas pour que les gardes du corps l'entendent. « Parlez-leur en bien de la garde d'Elantris et accordez-leur des permissions qu'ils passeront auprès de leurs anciens camarades. Laissez la garde s'aviser de ce que vous récompensez, ce qui vous prête allégeance pourrait vous être bénéfique à l'avenir. »
« Vous fournirez les fonds pour couvrir l'augmentation ?»
S'enquit l'autre avec prudence. Ratten leva les yeux au ciel. « C'est entendu. » Le duc opina du chef, puis rejoignit ses gardes. De nouveau, le Gurn s'accouda au parapet et contempla Kae. Il devait attendre un moment pour regagner l'escalier et redescendre. Tellery redoutait de proclamer son allégeance au Sudéret et de s'afficher en compagnie de Ratten. Il se faisait trop de soucis, mais pour le moment, sans doute, avait-il raison d'apparaître conservateur en matière de religion. La mention de la princesse Théoise troublait Ratten. Sa reine avait décidé de l'affronter alors qu'il ne lui avait donné aucun motif pour ce faire. Ironique au fond. Elle l'ignorait, mais il était son meilleur allié, non son pire ennemi. D'une façon ou d'une autre, son peuple se convertirait. Soit il répondrait aux appels à la raison du Gurn, soit il ploierait devant les armées Fjordel. Mais Ratten doutait de parvenir à la circonvenir. Il voyait la méfiance dans ses yeux. Elle croirait d'instinct que tout ce qu'il pouvait dire était un mensonge. Elle le haïssait, de cette haine irrationnelle qui venait à quiconque savait sa religion inférieure. La foi qu'Aurati avait presque disparu de toutes les grandes nations de l'Est et elle disparaîtrait de l'Arelon et du Théode. Le chukorat était faible, dépourvu de virilité. Le chuderet, fort, puissant. Telles deux plantes luttant pour le même terrain, le chuderet étranglerait le chukorat. Il secoua la tête, attendit encore un instant par sécurité et se détourna enfin pour longer le parapet jusqu'à l'escalier du chemin de ronde. Tandis qu'il l'atteignait, il entendit un bruit sourd en contrebas et il s'arrêta, étonné. On aurait juré que le portail de la cité maudite venait de se refermer. « Qu'est-ce que c'était ? » demanda-t-il en s'approchant de plusieurs gardes éclairés par le cercle de leurs torches. Ils haussèrent les épaules, mais l'un d'eux désigna deux silhouettes qui traversaient l'esplanade enténébrée. « On a dû capturer quelqu'un qui tentait de s'échapper. » Le Gjorn plissa le front. « Cela arrive souvent ?» L'autre secoua la tête. « La plupart sont trop stupides pour y songer. De temps en temps, il y en a bien un qui essaye, mais on les attrape toujours. »« Merci. » Raten les laissa et entama la longue descente jusqu'à la localité. Au pied des marches, il gagna le poste principal et trouva l'officier à l'intérieur, l'air somnolent comme s'il venait de se réveiller. « Un problème, capitaine ?» L'homme se tourna vers lui, surpris. « Oh, c'est vous, Gjorn ! Non, aucun problème, juste un de mes lieutenants qui fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Laissez les Élantriens retourner dans leur cité ?» Le capitaine fronça les sourcils, mais acquiesça. Raten l'avait rencontré à plusieurs reprises et prenait toujours soin d'entretenir sa cupidité. Il le tiendrait bientôt sous sa coupe. « La prochaine fois, » dit-il en levant la bourse qu'il portait à sa ceinture, « je pourrais vous offrir une solution différente. » Le regard de l'officier s'aviva tandis que le Gjorn tirait de sa bourse des viernes d'or, frappées du profil de Vulfden. « J'aimerais étudier un de ces élantriens de près, pour des motifs théologiques, » expliqua Raten en empilant les pièces sur la table. « J'apprécierais que le prochain à être capturé se retrouve dans ma chapelle avant qu'on ne le renvoie chez lui. »« Ce devrait être possible, monseigneur, » dit le capitaine en ramassant l'or d'une main avide. « Inutile de le crier sur les toits, bien sûr. »« Bien sûr, monseigneur. »